La loi Évin a été proposée au ministre de la Santé de l'époque, Claude Évin, par 5 médecins. Je faisais partie du groupe qui avait fait un rapport de santé publique avec des gens qui avaient depuis longtemps compris que la prévention ne serait efficace que si on s'attaquait aux gros facteurs de risque dans notre société. Il y en a 3 majeurs, c'est le tabac, l'alcool et l'accident de la circulation. Donc, on disait que pour le tabac et l'alcool, on ne devait plus en assurer la promotion publicitaire. Interdit total pour le tabac, donc tout voulait se débarrasser. Et pour l'alcool, il n'y a pas d'idée de prohibition dans ce pays. Il y a l'idée de ne pas assurer la promotion n'importe comment d'un produit potentiellement dangereux. La loi Évin n'a pas interdit totalement la publicité pour l'alcool. Elle l'a limitée dans la forme et sur les supports. Donc c'était une interdiction sélective et qui n'était pas globale. Une fois la loi Évin votée, les alcooliers se sont aperçus qu'ils avaient raté leur action de lobbying et dans les années qui ont suivi, on peut dire qu'une grande partie de la loi Évin dans son volet alcool a été détruite. Alors qu'à l'opposé, la loi tabac a bien résisté pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas du tout une puissance du lobby du tabac en France équivalente à la puissance du lobby de l'alcool. Les intérêts économiques ne sont pas les mêmes. Et pour l'alcool, on a vu successivement, et d'ailleurs dès le vote de la loi, une série de petites ou de grosses modifications qui l'ont vidé de son sens, puisqu'elle était fondée sur l'idée qu'on ne devait pas assurer la promotion de l'alcool n'importe comment auprès des jeunes. Il est évident que Entreprise et Prévention a été créée pour montrer une bonne image d'un monde de la production d'alcool responsable qui savait aller discuter avec les parlementaires, avec les structures associatives, avec les enseignants pour promouvoir un monde idéal qu'on n'a jamais vu nulle part où il n'y aurait que des consommateurs moyens qui maîtrisent et où on pourrait avoir à la fois les avantages qui sont évidents de l'alcool sans en avoir les inconvénients. Quand on voit les comportements par ailleurs des alcooliers, là, on peut douter de la cohérence de leur langage. Il y avait celui d'Entreprise et Prévention, et puis le discours sur le terrain qui était totalement différent. En ce qui concerne Entreprise et Prévention, c'est vrai que la structure, qui était une structure pour donner une bonne image de l'action des alcooliers dans la prévention de l'alcoolisme, n'est jamais intervenue sur le terrain. Et donc, c'est vrai de le dire, c'est pas au niveau des animations qu'Entreprise et Prévention agissait, c'était beaucoup plus à usage média, donc c'est ça ce qu'on peut appeler le visage présentable des alcooliers à travers Entreprise et Prévention. Mais c'est vrai que sur le terrain, le comportement dans les animations de soirée était exactement à l'opposé d'un comportement de consommation maîtrisé tel que le définissait Entreprise et Prévention dans ses documents. Et très vite, il a été possible de refaire de la publicité par la radio. Et puis ensuite, surtout, il y a eu le rétablissement de la publicité par affichage. On a même rétabli la possibilité de faire de la publicité sur les stades. Et puis ensuite, possibilité de vendre des boissons alcooliques sur les stades, ce qui était fondamental pour bien commencer la troisième mi-temps, c'est-à-dire passer du sport, activité favorable à la santé, vers la troisième mi-temps, qui est l'activité de destruction du bénéfice, puisque c'est ensuite l'accident de la route, les violences, tout ce qu'on peut voir quand après des matchs ou autour des matchs, il y a des consommations d'alcool, et qui peuvent se voir dès le stade du match, puisque quand on regarde les grandes catastrophes qui sont survenues dans des stades comme au Wesel ou en Angleterre, l'alcool était constamment associé à la violence.